ses autopsies disaient qu'il avait des os lourds, trapus. Moi, j'appelle ça « the muck ». « The muck », ça veut dire vraiment un magasin de force.
I think he was all of those things. A martyr, a madman, a visionary or a genius.
Je pense qu'il était tout cela à la fois. Un martyr, un fou, un visionnaire et un génie.
Chaque fois qu'on en arrivait au sujet des femmes, les femmes qui accouchaient, il s'est mis en inflammation et donc les autres considèrent toujours un petit peu qu'il était débordé par ses sentiments.
He was an oracle.
C'était un oracle.
Who, was trying to tell his story to a world that
il voulait raconter son histoire. Mais on ne l'écoutait pas, ou on n'était pas capable d'entendre ce qu'il avait à dire.
Dr. Semmelweis.
He was so combative. He was so passionate.
C'était quelqu'un de si combatif, de si passionné, si obsessionnel.
He was so obsessed that he couldn't get out of his own way. To allow the world to appreciate what he'd done.
Qu'il était incapable de se changer pour que le monde comprenne ce qu'il avait accompli.
Céline a écrit des pages admirables sur la fureur de Semmelweis. Mais Céline était lui aussi dans une fureur permanente. Il est fou, il y a une folie commune.
The way he was treated,
la manière dont il a été traité, même par ses collègues, a été absolument tragique et honteuse.
It was absolutely tragic and shameful.
J'imagine, sinon, malheureux, des fois je me demandais comment il a fait pour ne pas se suicider, comment il a pu tenir.
Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Anne Pérez Franchini.
Il ne s'est jamais écarté d'une destinée hongroise d'une certaine façon. C'est vraiment un de ces grands pionniers de l'histoire de la médecine, aux côtés de Pasteur et d'autres.
Quand il n'en pouvait plus, il arrivait à dire à son ennemi principal, vous êtes un assassin. En 49, vous avez tué 800 femmes. En 47, vous avez tué 650 femmes. Évidemment, c'était horrible à dire, mais c'était la vérité.
La vérité, elle fait peur et elle dérange. C'était pas concevable. Donc, évidemment, qu'il va déranger. Il va déranger le sommeil du monde. Un prophète maudit.
What is your name, sir?
Ignatz.
This is a beautiful name.
Dr. Semmelweis.
Première partie, le mystère.
Il a commencé à avoir des hallucinations, des choses comme ça. Et il est mort à l'asile à 47 ans. Et enterré, c'est-à-dire qu'on a pu parler de lui. Sauf les Hongrois qui en ont fait un héros national. Il y a une statue de lui à Budapest. Mais c'était postérieurement. Et c'est ce qui a fasciné Céline. Ce qui a fasciné Céline, c'était un parcours humain de prophète maudit, si je puis dire, et le courage de Semmelweis de se battre.
I only ask that they wash their hands after their work with the cadavers. I am a doctor in this hospital. And an instructor, and I believe that this practice will save lives.
But this is not our way.
Not long now. Push.
My name is Jim Barry. I'm a writer.
Je m'appelle Jim Barry. Je suis scénariste et réalisateur.
I was in graduate school.
J'étais en deuxième année d'études de cinéma à l'université de New York.
I was a second year student, and so. That afternoon, I went to the library and found a book called.
C'était un après-midi, j'étais à la bibliothèque et je tombe sur un livre intitulé Les hommes contre la mort. C'était des portraits de médecins et de scientifiques qui avaient fait de grandes découvertes.
Semmelweis was one of these stories and it just really.
L'une de ces histoires était celle de Semmelweis, et ça a été immédiat, j'ai été complètement conquis. Cette histoire, il fallait la raconter. Il fallait que quelqu'un la raconte, peu importe que ce soit moi ou pas, je voulais la voir au cinéma. Et c'est comme ça qu'a commencé cette longue traversée en compagnie de Semmelweis. Pour moi, en tant qu'artiste, il doit y avoir dans le personnage quelque chose avec lequel je puisse me connecter. Et dans le cas de Semmelweis, c'est l'idée de quelqu'un qui était persécuté alors qu'il avait totalement raison de faire ce qu'il faisait. Il était violemment attaqué pour ses convictions. Et ça, c'était une idée vraiment très forte pour moi.
Dr. Semmelweis. Interesting document, this. Your creativity is inspiring, but I'm afraid that I must turn a deaf ear to your speculations. You have a fanciful imagination, Doctor.
You're Hungarian, aren't you?
The horror, the madness, the mystery.
L'horreur, la folie, le mystère. Il y avait toutes ces choses génératrices d'angoisse, toutes ces choses qui font peur. Il était fondamental pour moi de trouver des images évocatrices, parce que l'un des éléments les plus importants de Semmelweis, c'est l'obsession.
Les femmes lying in are perpetually afraid as they watch the beds around them empty.
Elizabeth Muller.
If you set this brain of mine on fire, on my blood, I yet will carry you.
Et si tu mets aussi le feu à mon cerveau, je te porterai dans mon sang.
For me, that quote by Rilke is so inflammatory.
Ce vers de Rilke a quelque chose d'incandescent.
You set my brain on fire.
Littéralement, tu mets le feu à mon cerveau. Pour moi, ça traduit parfaitement la passion de Semmelweis et son obsession.
Et si tu mets aussi le feu à mon cerveau, je te porterai dans mon sang.
Please, Father, don't ring that bell anymore.
I was inspired by.
J'étais très inspiré par David Lynch.
So for me, I had to have a nightmare.
Il fallait donc qu'il y ait une scène de cauchemar dans le film. Que j'ajoute au scénario des images qui terrifient Semmelweis. Il y a une femme en train d'être disséquée qui éclate de rire.
Look at their faces.
Then we cut to.
Puis on passe à un plan du cimetière de Vienne avec des corbeaux qui s'envolent. Pour moi, la présence de ces éléments empruntés au genre de l'horreur, du gothique, les cauchemars et la folie, c'était fondamental. Parce que l'histoire de Semmelweis, c'est aussi celle de sa mort, très jeune, dans un asile.
Le film commence avec un shot through.
Mon film débute par un plan séquence à travers une grille. Il pleut, la caméra se rapproche, passe à travers les barreaux, et la pluie tombe très fort. Et le film commence.
The movie begins.
Dr. Semmelweis.
Il y a peu de médecins ou scientifiques qui aient contribué de façon aussi majeure et qui n'ont pas eu de leur vivant la reconnaissance des pairs.
Jean-Marc Cavaillon.
Voilà, j'ai fait toute ma carrière à l'Institut Pasteur et surtout j'ai travaillé essentiellement sur le sepsis, sur le terme plus commun de septicémie. Et je suis fasciné par le retard à la reconnaissance. 2018, c'était le bicentenaire de sa naissance. On a inauguré dans de nombreuses villes des statues de Semmelweis. C'est fascinant. 200 ans après seulement, on inaugure à l'OMS, par exemple, dans le hall de l'OMS, il y a maintenant une statue de Semmelweis depuis 2018. C'est unique d'avoir un personnage qui a effectivement eu une intuition de génie, qui a effectivement œuvré pour la santé des femmes et pour qui... finalement, la reconnaissance ne viendra malheureusement pour lui qu'après sa mort. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de situations de ce genre.
C'est un tragique. Il n'y a qu'en Hongrie qu'il est à ce point vénéré. Je suis psychiatre dans les milieux médicaux français. On ne le connaissait pas.
Yves Bain.
Et donc, je me suis intéressé par le biais de Céline à Semmelweis. Parce qu'il faut savoir qu'il était très peu connu en France. Même récemment, il y a des tas de médecins qui ne connaissent pas Semmelweis. C'est quand même tragique de penser qu'il y a eu dans l'histoire de la médecine, déjà Giordano Bruno a été brûlé vif. C'est qu'il y a eu des héros comme ça. Des gens qui ont été à l'avant-garde, qui ne le prétendaient pas d'ailleurs. Je ne pense pas qu'il était prétentieux. Il devait être plutôt humble, mais déterminé, courageux. Ça, courageux, sûr.
De quoi a-t-il été victime ?
Johann Chapoutot.
Il a été victime de la connerie. De la connerie. En médecine plus qu'ailleurs, la connerie tue. Et Semmelweis l'a dit d'ailleurs, il l'a écrit avec virulence, de manière véhémente. Et la connerie, en l'espèce, c'est l'aveuglement et l'hubris de mandarins stupides qui étaient plus préoccupés de leur propre réputation et de leur propre position universitaire et sociale que de quête de la vérité. Le parallèle qui s'impose, bien sûr, c'est celui de Galilée, la vie de Galilée, une vie en quête de savoir, de connaissance, de vérité, qui se heurte à une institution monstrueuse, en l'espèce, la curie, les cardinaux, l'inquisition. La différence, c'est que Galilée a assez de souplesse pour s'accommoder et faire un compromis avec ceux qui veulent le faire taire. Bon, et il s'en sort. Semmelweis, il peut pas. Du point de vue scientifique, psychologique, il ne peut pas. Après tout, Galilée, il s'occupait de planètes. C'est beau, mais c'est loin. Semmelweis, il s'occupe de femmes qui meurent en couche et qui continuent à mourir massivement dans d'autres institutions de délivrance. En Autriche, en Allemagne, il ne peut pas se taire.
Dr. Semmelweis, childbed fever is a specific, non-contagious female illness. It is caused by cosmic, telluric influences, a miasma.
Sir, what exactly is a miasma?
It is a noxious emanation.
Influences not of this world.
Not of this world and completely unpredictable, as I've told you.
Ignaz Semmelweis was born in July of 1818.
Ignaz Semmelweis est né en juillet 1818.
Man who became
Ted Obenchain.
Fascinated with a
Il s'était passionné pour une maladie infectieuse qui tuait les femmes dans des proportions intolérables et qui a fini par consumer sa vie. Semmelweis a eu la malchance de vivre à une époque où il lui a fallu affronter une communauté scientifique encore coincée au Moyen-Âge. Semmelweis était un pionnier. Il essayait de sortir l'humanité de la jungle, des forêts. Et s'il n'y est pas parvenu, c'est un peu de sa faute, à cause de sa personnalité un peu particulière. Mais c'est surtout la faute de ceux qu'il essayait de convaincre. Il est l'exemple parfait de quelqu'un qui a dû combattre l'Antiquité avec les moyens de la modernité.
Il faut quand même avoir en tête qu'on est dans des sociétés pré-pasteuriennes.
Nathalie Sage prend cher.
Et qu'à ce titre-là, on n'envisage pas forcément la saleté comme un vecteur de maladie. Et on ne va jamais voir recommander de manière systématique, même dans les manuels d'obstétrique, de se laver les mains avant de faire un toucher. Et en fait, ce que vient de dire Semmelweis, c'est vous pouvez être des techniciens géniaux, virtuoses, mais en fait, si vous ne vous lavez pas les mains, vous continuerez à tuer les femmes. Finalement, il apporte une réponse qui peut paraître totalement basique à un problème qui occupe des centaines de médecins depuis des décennies et des décennies. Et c'est peut-être en partie aussi ce qui fait que ça passe aussi mal parmi ses collègues. D'abord parce que c'est une manière de dire, bon, non seulement vous êtes responsable de la mort des patientes, mais en plus, vous êtes suffisamment idiot pour ne pas mesurer qu'un geste d'une simplicité absolue suffirait à régler le problème.
Sans doute est-il arrivé un peu tôt.
Scarlett Beauvallier.
Il arrivait à un moment où on ne pouvait pas entendre cela, parce que les esprits n'étaient pas prêts. Les esprits n'étaient pas prêts parce que dire qu'un homme médecin allait transmettre alors qu'il est là pour sauver les femmes, qu'il allait transmettre lui-même la maladie, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas entendre.
J'adore. Alors, c'est une phrase qu'on attribue à un médecin qui s'appelle Charles de Lucas Meigs, à qui on attribue les propos. Je ne sais pas si vraiment il les a tenus, mais il a dit « Les médecins sont des gentlemen et les mains des gentlemen sont propres ». Et je pense que ça résume un peu cette notion, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'un médecin puisse apporter la mort, effectivement. Mais c'est aussi la réticence du monde médical et scientifique à ouvrir les yeux face à une rupture conceptuelle.
Ça a été une grande controverse, incontestablement, parce qu'il y avait vraiment des oppositions passionnelles et passionnées, de pour et de contre, toute innovation... implique une rupture.
René Friedman.
Puisqu'on va changer quelque chose qui existait. Donc il y a des réticences au changement. Et plus la chose est un peu osée, on va dire, ou semble osée par rapport aux habitudes, plus elle bouscule et elles peuvent choquer quelques-uns. On est devant des évidences médicales qui combattent des convictions religieuses ou politiques ou d'idéologie, et ça a été de tout temps. Je veux dire par là que Semmelweis n'a pas la place qu'il mériterait pour le modèle que ça représente de pugnacité, hein, et de méthode scientifique.
Oui, Semmelweis est un cas important dans l'histoire de la médecine, parce que
Andreas Bickfalvy.
C'est un petit peu la rupture, parce qu'il était hors du consensus. Et il y a les... personnes qui ont uniquement une pensée non orthodoxe, qui peuvent rompre ce consensus. C'est quelqu'un qui a eu un esprit remarquable, d'une rationalité remarquable à une époque où c'était très difficile de faire valoir la raison et la démarche scientifique rigoureuse, parce qu'ils étaient encore... Par exemple, à la saignée, hein, il le faisait saigner des femmes qui avaient des fièvres puerpérales. Avec ça, il les tue encore plus vite. Hein. Je dirige une unité INSERM qui travaille sur les vaisseaux sanguins et sur le cancer. Il faut être très solide pour faire ça. Il faut se fier, à la raison. Et il ne faut pas se fier aux croyances qui sont imposés de l'extérieur. Et je pense que Semmelweis aussi est un exemple pour ça. Je suis d'origine hongroise et moi je retiens ça de lui. Être seul, seul envers tous.
You are killers.
Yes, Dr. Semmelweis. We further conclude that our high incidence of fever of late can be attributed to our foreign students. Is their crude and brutal manners.
We have decided to halve the number of foreign students in the program, and we have also decided not to renew your contract with our hospital. But I do thank you for your services to us, Dr. Semmelweis.
I only ask that they wash their hands after their work with the cadavers.
Il représente vraiment l'attitude scientifique, la recherche clinique face à un problème angoissant. Qui est la mort des femmes en suite de couche. Cette affection puerpérale redoutable, quoi, quand même, qui aboutit à des pics de 10 à 15% de mortalité, enfin, c'est pas rien. On ne connaît pas l'existence des microbes. Peut-être certains miasmes, ça peut se communiquer par l'air, mais enfin, on n'a pas ce début scientifique, enfin, c'est pas Pasteur.
Ce qui est indiscutablement admirable chez Semmelweis, c'est sa démonstration, alors que la théorie des germes élaboré par Pasteur n'est pas encore faite. On ne connaît pas encore les microbes. Donc, cette notion d'avoir vu juste avant même que les démonstrations viendront derrière confirmer la réalité de son approche, c'est ce qu'il y a effectivement le plus d'admirable dans la démarche intellectuelle et scientifique de Semmelweis.
Et nous sommes dans les années 1840 environ, 45, donc on est quand même dans une période assez obscure de la médecine. Elle est encore très artisanale et très, très limitée dans son efficacité, la médecine. C'est la méthode anatomoclinique qui est la discipline reine. L'anatomie a une énorme importance et donc les salles de dissection sont très fréquentées par les médecins. le cadavre est encore à peine chaud qu'il est déjà transféré en autopsie. Et Semmelweis y participe, bien sûr. Et il va, à ce moment-là, empiriquement, parce que c'est un observateur, et il s'aperçoit que quand il revient des salles de dissection, les mains souillées, et qu'il fait des touchés vaginaux pour vérifier la progression de l'enfant, les femmes contractent la fièvre puerpérale. Avec son intuition et son empirisme, il découvre qu'il faut se laver les mains. Et il institue un rituel qu'il oblige les étudiants en médecine et les médecins qui sont avec lui à pratiquer, c'est-à-dire qu'ils se lavent les mains avec de l'eau de Javel avant de pénétrer en salle de travail. Et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, la mortalité par fièvre puerpérale diminue considérablement. Ce n'est rien d'autre que de l'asepsie. Il est le découvreur de l'asepsie. Mais comme il n'y a pas encore la théorie microbienne, il va avoir très peu d'écho. Et puis ensuite, ce sera Pasteur qui va récolter tout avec une méthode extrêmement scientifique et admirable du point de vue du raisonnement. C'est Pasteur qui va rafler toute la mise.
Il existe un film américain qui s'appelle « The Story of Louis Pasteur » qui a été fait en 1936 et qui commence par un meurtre, c'est-à-dire c'est un père de famille qui tue le médecin qui a laissé mourir sa femme au moment de l'accouchement. Yeah. Et lorsqu'il est devant le juge,
justice! In what way did he wrong you? He killed my wife!
Le père de famille, effondré par la mort de son épouse, sort un document sur lequel il est écrit « Docteur, médecin, ne soyez pas des assassins, lavez-vous les mains. » Et c'est signé Louis Pasteur.
Louis Pasteur? Now who is he?
He is a menace to science. The shooting of Dr. Francois proves it. Now, monsieur, if Pasteur is allowed to continue, he will make the practice of medicine unsafe.
Et c'est assez fascinant parce qu'en fait, ce film commence avec cette histoire, comme si c'était Louis Pasteur qui était le porteur de cette idée qu'il fallait se laver les mains. Et cela illustre.
Oh, Monsieur Pasteur, it's the most fascinating.
If you please, my dear.
L'impact qu'ont les mythes par rapport à la réalité. Parce qu'en France, on a entretenu le mythe du héros. Pasteur est un héros.
Your Majesty, I have a surprise for you. Who do you think is here? I am most curious, Your Majesty. Who? Pasteur. Pasteur? Here at the palace? Yes. I sent for him.
Le mythe Pasteur, la statue du commandeur.
Sir Pasteur, you are wanted.
Et donc, on va attribuer à Pasteur cette... ce concept du lavage des mains, alors que ce concept, il est à Semmelweis.
Is it not true that you are the author of a pamphlet which caused the death of a noted physician, and also that you practice medicine of a kind?
I don't practice medicine. I'm trying to put a stop to the negligence of those who do. Pasteur.
Oh, Monsieur Pasteur, it's the most fascinating.
If you please, my dear.
Et Pasteur n'aura jamais fait allusion aux travaux de Semmelweis, et même s'il a effectivement contribué à améliorer les conditions d'accouchement, puisque Pasteur lui-même a travaillé sur les fièvres puerpérales et a préconisé l'acide borique pour nettoyer les voies génitales après l'accouchement, en aucun cas il n'a abordé le problème des mains des obstétriciens. J'ai trouvé ces images dans ce film très fortes, puisque finalement on attribuait un héros à une icône, Louis Pasteur, des propos et des conclusions qui n'étaient pas les siennes, mais qui étaient celles de Semmelweis.
La question du pionnier est très débattue en histoire des sciences. En histoire des sciences, précisément, le pionnier n'a pas de statut puisqu'il n'a rien découvert.
Elisabeth Rodinesco.
Il a pressenti et vit dans l'ombre de la vérité. C'est un statut absolument épouvantable de voir quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Celui qui voit des choses, et puis ensuite, 50 ans plus tard, celui qui va expliquer, prouver, montrer. Il y a ceux qui ont pressenti, décrit, vu, et ensuite, il y a ceux qui théorisent. Et donc, c'est facilement un personnage de maudit. C'est vraiment tragique, la destinée de Semmelweis. C'est pour ça que ça a tellement frappé les esprits. Et c'est pour ça que la thèse de Céline, qui le réhabilite en quelque sorte, a tellement intéressé tout le monde. Je crois franchement qu'on n'aurait pas réhabilité à ce point Semmelweis sans Céline. On aurait reconnu, bien sûr. On reconnaît toujours dans l'histoire des sciences qu'on a un pionnier qui n'existe pas, mais ceux qui ont été avant la grande découverte. Mais une fois encore, hein, s'il n'y avait pas le texte de Céline, on ne regarderait pas Semmelweis de la même façon. Donc, c'est Céline qui a rendu Semmelweis vivant.
C'est la première fois que l'écrivain Louis-Ferdinand Céline parle à la radio.
J'ai écrit une thèse qui s'appelle « La vie et l'œuvre de Philippe Ignace Semmelweis » et qui est en somme un peu littéraire. Elle peut être considérée comme un premier roman, si l'on veut dire. Alors, c'est un roman médical, strictement médical, et scientifique pour une partie. Aussitôt après ma thèse, je suis entré à la subvention, à la section d'épidémiologie et d'hygiène à Genève, en 1924, exactement, oui. Et puis, j'ai continué à écrire parce que je travaillais après dans un dispensaire municipal. J'avais uniquement une vocation médicale. Je regrette de l'avoir un peu négligé. Je me serais livré entièrement à la médecine. Je n'aurais pas eu tant d'ennui. Et alors, je me suis livré à la littérature et il m'en a coûté très cher. Ça rend la vie très compliquée. Ça m'a toujours été comme une espèce de malédiction, cette affaire d'écrire.
Il a écrit une thèse que je trouve magnifique. Si les gens ils n'ont qu'un livre à lire de Céline, ils n'ont qu'à lire de Semmelweis. Pourquoi le lire? Parce que c'est une vraie fresque. Il a un ton hugolien, Céline. Et il a écrit sa thèse avec une ferveur énorme. Donc, Semmelweis, il en a fait un grand personnage, épique, avec une thèse magnifiquement écrite, qui fait 120 pages, c'est pas un pavé. C'est une thèse littéraire, en fait. Et alors, il a écrit sa thèse à l'instigation de Brindot. Il a eu la mention très honorable. Et c'est à ce moment-là que Brindot a dit à Céline, vous devriez écrire.
Semmelweis était issu d'un rêve d'espérance que l'ambiance constante de tant de misères atroces n'a jamais pu décourager. Que toutes les adversités, bien au contraire, ont rendu triomphant. Il a vécu, lui, si sensible, parmi des lamentations si pénétrantes que n'importe quel chien s'en fût enfui en hurlant. Mais ainsi, forcer son rêve à toutes les promiscuités, c'est vivre dans un monde de découvertes, c'est voir dans la nuit. C'est peut-être forcer le monde à entrer dans son rêve.
Louis-Ferdinand Céline, enfin, qui s'appelait Destouches à l'époque, lors de ses études de médecine,
David Labreur.
On lui avait raconté une histoire à Céline. Il ne s'est pas renseigné lui-même de prime abord sur Semmelweis. On lui a raconté l'histoire. Deux médecins lui ont raconté l'histoire. Brindot, qu'il a rencontré à la maternité Tarnier, qui est son directeur de thèse, et Véron, qui était professeur d'obstétrique à Rennes. Ce sont ces deux médecins-là qui lui ont passer cette histoire. Donc on peut dire que c'est l'exemple type du mythe qui se transmet, de l'histoire qui se transmet, du récit qu'on se raconte de génération de médecins en génération de médecins. Vous voyez cet individu qu'on n'a pas compris à cette époque-là, qui a été voué à la folie, qui est mort dans des circonstances affreuses. Voilà. Et donc c'est un mythe, effectivement, qui se transmettait depuis la fin du 19e siècle. Par exemple, dans la revue de vulgarisation scientifique Je sais tout, Metchnikov, qui est un savant de l'Institut Pasteur, un biologiste à l'Institut Pasteur, raconte donc ses martyrs de la science et Semmelweis en fait partie. Donc l'histoire circule, l'histoire est connue. Et donc Céline s'est emparé de ce mythe, en a fait sa propre version. Après en avoir entendu parler donc par ces deux médecins, donc Céline se met à faire des recherches sur le personnage. Alors, il n'y a pas une bibliographie extrêmement épaisse. On est à peu près sûr qu'il a lu l'ouvrage de Sinclair, qui est la première biographie d'ampleur anglo-saxonne sur le sujet. On peut pas dire qu'il était extrêmement exhaustif. Il a sûrement lu des articles, des notices. Un peu par là, faut dire que Céline a plutôt un savoir encyclopédique, mais de vulgarisation. Il lit beaucoup, mais il est beaucoup dans la vulgarisation scientifique. Donc il a probablement lu aussi l'article de Metchnikov. Donc tout ça fait un espèce de bric-à-brac de référence entre les gens qui lui ont raconté l'histoire, quelques ouvrages de référence de l'époque, et ses propres lectures de vulgarisation scientifique qui ont fait naître un petit peu sa propre interprétation du mythe.
Lui seul se refuse au destin et n'en est pas écrasé. Mais Semmelweis en souffre plus que tous les autres, dans tous les temps, à Vienne aussi bien qu'à Paris, à Londres, comme à Milan. Eux tous ont, tôt ou tard, courbé la tête sur le passage du fléau puerpéral. Hypocritement, ils ont pactisé avec la mort. Rarissime est celui qui ose, et trouve en lui la force qu'il faut pour affronter le destin commun qui l'entraîne. Semmelweis choisit cette tâche à sa mesure et en son temps. « Le destin m'a choisi, écrit-il, pour être le missionnaire de la vérité. »
La première fois, je ne me souviens pas, je pense que je devais être étudiant, c'est quand j'ai lu la thèse de Louis-Ferdinand Céline. C'est une histoire qui m'a beaucoup marqué, interpellé. Ce premier petit livre, je l'ai prêté à quelqu'un qui ne me l'a jamais rendu, je l'ai racheté. Je l'ai reprêté à quelqu'un qui me l'a jamais rendu, donc du coup. Mais bon, c'est effectivement ça a été cette histoire-là. À l'époque, je réalise moins que c'est une thèse plus que c'est une histoire, et je lis l'histoire. En particulier, Céline dit que Semmelweis s'est suicidé en se blessant lui-même avec un scalpel imbibé de matériel putride. C'est effectivement tout à fait romancé et l'histoire de Semmelweis, elle est juste fascinante dans son côté tragique. Sa vie a été une tragédie, son combat contre la nomenclatura médicale a été une tragédie et sa mort a été une tragédie.
On a le sentiment que c'était vraiment un personnage pour Céline, qu'on pourrait retrouver dans ses romans d'ailleurs. Parce que Céline est évidemment un écrivain qui n'a pas encore publié son œuvre romanesque, mais c'est un roman. La manière dont il raconte l'itinéraire tragique de Semmelweis, on voit qu'il s'agit plus, à ce moment-là, je dirais, d'un romancier qui a beaucoup de talent, une plume enflammée, que d'un historien de la médecine. Quelquefois, d'ailleurs, ce qu'il invente est plus vrai que la réalité. Il y a un lyrisme. Il y a un extraordinaire lyrisme. Il dresse un extraordinaire itinéraire d'un très grand médecin auquel il s'identifie, il le dit d'ailleurs, auquel il s'identifie, c'est-à-dire une personnalité sensible, un médecin des pauvres, en quelque sorte, un médecin des marginaux, un médecin des femmes. Et Céline, on voit tout de suite à quel point cet homme peut le fasciner.
Semmelweis n'avait aucune ambition. Il n'avait pas non plus ce souci de la vérité pure qui anime les chercheurs scientifiques. Il ne se serait jamais engagé sur le chemin des recherches s'il n'y avait été entraîné par une ardente pitié pour la détresse physique et morale de ses malades. Hanté par la souffrance des hommes, Semmelweis écrivit, au cours de ces jours si rares où il pensait à lui-même, toujours la pensée de la mort chez mes malades me fut insupportable, surtout quand elle se glisse entre les deux grandes joies de l'existence, celle d'être jeune et celle de donner la vie.
Effectivement, il y a un côté très empathique de Semmelweis, bon, qui va aussi un peu avec le mythe, hein, avec le mythe du médecin. Apparemment, d'après les descriptions, c'était un médecin quand même assez apprécié, Semmelweis. Il était très au chevet de ses patients, il prenait le temps. C'était un peu sur l'exemple du médecin des pauvres après que Céline revendiquerait être. Mais c'est ce côté très proche des patients, prendre le temps, être à leur chevet, discuter, être aussi dans l'empathie. Ça participe aussi au mythe, l'empathie du médecin, évidemment.
C'est à la fois quelqu'un d'humaniste, de très généreux, de très compatissant. Il a cette relation peut-être d'amour, c'est peut-être un peu exagéré, mais il est vraiment dans un état de souffrance quand il voit les jeunes accouchées mourir les unes après les autres. Et il souffre dans son propre corps. Il se sent coupable en même temps. Il veut guérir, il veut soigner. Donc il est engagé dans un combat. Ça intéresse Céline parce qu'il est comme ça, Céline. Céline était très à l'écoute. Il restait des heures en consultation.
C'est une ode à la médecine, parce que Céline a une profonde affection pour la médecine et il voulait rétablir un petit peu le personnage du médecin, le personnage idéal du médecin, avec Semmelweis, en disant « voilà un exemple de médecin qui va apporter la lumière au monde, qui va amener la vie, qui va se battre contre la mort, jusqu'à sa propre mort à lui ». Et cette confrontation à ce destin tragique, là, fait aller non seulement vers la médecine, mais aussi vers la littérature.
Il va commencer Voyage au bout de la nuit bientôt. Bon, sa thèse, elle date de 1924. Donc on est à 10 ans d'écart de Voyage au bout de la nuit. Mais il y pense beaucoup. Il y pense beaucoup. Et il est dans une position héroïque, Céline. C'est-à-dire il va défier le monde entier. Comme Semmelweis avait défié le conformisme médical de l'époque. Donc il va trouver un héros, là. Mais il sera, lui, postérieurement, le héros de la littérature. Tandis que Semmelweis est le héros de la médecine. Et ce qui lui plaît, c'est que le personnage va être un maudit. Il dira la vérité, et c'est jamais bon de dire la vérité. Donc il va retrouver ça chez Semmelweis, un prophète maudit.
Semmelweis puisait son existence à des sources trop généreuses pour être bien compris par les autres hommes. Il était de ceux, trop rares, qui peuvent aimer la vie dans ce qu'elle a de plus simple et de plus beau. Vivre. Il l'aima plus que de raison. Dans l'histoire des temps, la vie n'est qu'une ivresse. La vérité, c'est la mort.
Et je crois que Céline est aussi sensible au caractère dramatique de l'existence de Semmelweis qu'à une vie de souffrance. Parce que quand on récapitule sa biographie, par exemple, le jour où il a passé sa thèse sur la vie des plantes, c'était en 1844, il était au chevet de sa mère qui était mourante. Il n'était pas sa soutenance de thèse. Son père est mort un an et demi après, au moment où il commence à être assistant. Ça l'a marqué. Puis il y a la mort de ses enfants. En 1857 et 58, ses deux premiers enfants sont morts. Lui, le médecin accoucheur, il a des enfants morts. Donc il a vécu des moments extrêmement difficiles, de caractère dépressif et mélancolique. Est-ce qu'il a eu des éléments délirants? Moi, je vois plus quelqu'un, effectivement, du côté sombre. Semmelweis est désespéré, parce que faut dire qu'il a affronté ce que j'appelais la Mecque en Europe centrale, qui était l'hôpital général de Vienne. Il a affronté une institution impériale. Il était hongrois, en plus il n'était pas allemand ni autrichien. Et il s'est affronté à une structure énorme qui l'a ridiculisé. Il a été blessé narcissiquement. Alors là, on pourrait rejoindre Céline aussi, parce que Céline était dans une désespérance totale.
Semmelweis s'était détaché, lancé dans l'incohérence. Il avait perdu sa lucidité, cette puissance des puissances, cette concentration de tout notre avenir sur un point précis de l'univers. Rapidement, il devint le pantin de toutes ses facultés, autrefois si puissantes, à présent déchaînées dans l'absurde. Il errait avec les fous, dans l'absolu, dans ces solitudes glaciales où nos passions n'éveillent plus d'écho, où notre cœur humain, terrorisé, palpitant à se rompre sur la route du néant, n'est plus qu'un petit animal stupide et désorienté.
Mais Semmelweis, il a eu une mort atroce. Il serait mort dans la souffrance, n'importe comment. Et là, il est mort dans une double souffrance. Il a été battu, il a été maltraité, pris pour un fou. Et il est mort d'une septicémie gravissime, dont de grosses souffrances physiques. On l'a laissé mourir. D'ailleurs, Céline avait donné les derniers jours de Semmelweis un extrait de sa thèse. Céline s'est identifiée totalement à cette mort atroce, et c'est pour ça qu'il a en particulier voulu réhabiliter Semmelweis.
20 fois le soir descendit avant que la mort n'emportât celui dont elle avait reçu l'affront précis, inoubliable. C'était à peine un homme qu'elle allait reprendre, une forme délirante, corrompue, dont les contours allaient s'effaçant sous une purulence progressive. Le 13 août 1865, au matin, la mort le saisit à la gorge. Il étouffa. Des senteurs putrides envahirent la chambre. Semmelweis entra dans la paix à 7 heures du soir.
Il a trouvé son héros. Donc il l'a magnifié. Ça a été une identification complète à ce personnage historique méconnu qui était Semmelweis. Et donc la thèse de Céline est une thèse extrêmement subjective. C'est pas une thèse historique, c'est pas une thèse précise. Il donne des chiffres erronés, il donne des dates erronées, il invente même des choses que par exemple Semmelweis, dans une période d'agitation, aurait distribué des tracts dans la rue ou aurait collé des affiches sur les monuments publics sur la fièvre puerpérale. C'est absolument faux. Les historiens de la médecine hongroise ont montré que c'était des affabulations.
Oui, c'est plus que de l'identification à Semmelweis, c'est de l'incorporation. Mais Céline ne sait pas faire autrement. Céline dévore Semmelweis. C'est un dévoreur. C'est pas du tout quelqu'un qui a la moindre distance avec ses personnages. Tous les personnages de Céline sont lui-même. C'est lui-même. Hein. C'est la folie de Céline, d'ailleurs, d'être à la fois l'auteur, le narrateur et le personnage du livre. Il dévore tout de Semmelweis. Il dévore le personnage dans son entier, dont il fait d'ailleurs un persécuté. Céline aussi est fou par certains côtés. C'est des fous lucides, hein, c'est pas des fous hallucinés, mais il y a un destin de folie chez les deux. Sauf que Semmelweis, ça restera héroïque, alors que Céline, ça va sombrer dans l'abjection.
Autour de la tragédie de Semmelweis, ce ne sont pas des hommes qui s'affrontent. Ce sont des puissances biologiques énormes qui se combattent. Cette méchanceté infernale dont il fut la victime a la grandeur et la fatalité d'une guerre.
Semmelweis, pour Céline, c'est quelqu'un qui s'élève au-dessus de la mêlée des hommes. Céline en fait une sorte d'idéal en tant que médecin et en tant qu'homme. Pour lui, l'humanité, c'est ça. L'humanité doit tendre vers une certaine forme de pureté, presque, du personnage de Semmelweis, pur face à la corruption de tous en face.
Il ne faut pas oublier que Céline est un médecin hygiéniste, hein. Il s'occupe de médecine sociale, de médecine d'hygiène, d'épidémiologie. Il est d'ailleurs fou furieux avec ça. Il voudrait aider toute l'humanité contre les microbes. Ce qui va le rendre fou, puisqu'ensuite il va dire que les microbes viennent des Juifs. Ça, c'est le destin de Céline. Hein. On aurait pu imaginer la fin de Céline comme celle de Semmelweis. Ben, pas du tout. Hein. La fin de Céline est lamentable. Les romans d'après-guerre de Céline sont des romans qui n'ont plus rien, qui deviennent des espèces de hurlements. Donc c'est intéressant de lire évidemment comment Céline a décrit en même temps quelqu'un qui s'est identifié et puis ce qu'il sera jamais. Céline ne sera jamais Semmelweis.
Un grand bienfaiteur paraîtra toujours, bien qu'on dise ou qu'on fasse, un peu banal, d'une beauté un peu usée, comme celle de l'eau et du soleil. Semmelweis fut un très grand cœur et un grand génie médical. Il semble que sa découverte dépassa les forces de son génie. Ce fut peut-être la cause profonde de tous ses malheurs.
C'est vrai qu'en France, on a l'écran célinien lorsqu'on parle de Semmelweis. En tout cas, ça a été aussi mon écran. Je pense qu'il y a cette image très romantique du Clara Royer. Disons, cette image un peu cassandrienne de Semmelweis, qui est très séduisante. C'est le prophète qui crie dans le désert et qui n'est écouté de personne. Ce qui n'est pas tout à fait juste parce qu'en Hongrie, il a été écouté, par exemple.
Déjà au moment où cette thèse a été publiée, eh bien, il y avait un Hongrois qui était un professeur hongrois qui avait publié un article dans une revue médicale parisienne pour expliquer que la thèse de Céline était extrêmement fautive, que les chiffres n'étaient pas bons, que l'imaginaire hongrois était tout à fait romantique et ne correspondait pas tout à fait à la réalité. Tibor Gyuri publie cet article dénonçant les erreurs de Céline dans la revue La Presse Médicale, ce qui a beaucoup agacé Céline. Et puis, c'est aussi l'image du batailleur, celui qui est pourchassé par les critiques iniques et injustes, qui l'aurait conduit à la folie. C'est surtout cette image de prophète possédé qui me semble un peu exagérée et qui a séduit des gens comme Céline.
It's interesting to think about
Dana Tulodiki.
Why Semmelweis has become so interesting.
Il est intéressant de se demander pourquoi la figure de Semmelweis séduit autant les gens et pourquoi, au-delà du cas de Semmelweis, on s'intéresse autant aux pionniers de la médecine. Pour moi, les gens aiment les récits héroïques, ces histoires de pionniers solitaires et un peu excentriques qui partent en guerre contre l'establishment. Beaucoup d'histoires circulent sur sa personnalité difficile, ce qui renforce, à mon avis, cette image de héros solitaire et incompris. L'histoire de sa mort aussi a largement contribué à la création d'un mythe Semmelweis, mythe qui perdure encore aujourd'hui. On débat toujours sur la vraie nature de sa maladie et sur les raisons exactes de sa mort. Ce qui s'accorde tout à fait avec l'idée d'un Semmelweis mystérieux et un peu bizarre. Mais quand on commence à creuser, tout devient incroyablement plus complexe. Je pense qu'il est important de briser le mythe Semmelweis, de s'y attaquer, de l'examiner de près. Alors, allons-y, brisons-le gaiement.
L'histoire est inspirante, hein. Il y a tous les éléments d'un potentiel littéraire. Il y a le héros, il y a les adversaires, il y a la découverte, il y a la résistance, il y a la fin, il y a la mort, la tragédie. C'est-à-dire qu'il a le parcours du martyr qui peut en faire un mythe.
Moi, je vois les choses de manière moins mystique, en fait, moins héroïque. Est-ce que Semmelweis a été un martyr, un fou, un visionnaire, un génie? Alors un fou certainement pas. Visionnaire, génie, martyr, non. Semmelweis a été un médecin. Un médecin avec une tête scientifique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui soigne, qui veut soigner, et qui s'étonne d'abord, puis ensuite est effaré du fait que des femmes meurent en couche, tout simplement. Et donc il se met en quête des raisons, de l'étiologie comme on dit. De cette surmortalité, c'est un médecin qui pense en scientifique et donc il fait des statistiques et il se met en quête de la cause. Rerum cognoscere causas, connaître l'origine des choses, connaître la cause des choses. Voilà.
Je ne pense pas que Ignaz Semmelweis est un martyr.
Miklos de Samaros.
Il ne s'agit pas de Sainte Agathe qui en arracha les seins pour qu'il renie sa foi. Est-ce qu'il était un génie? Je pourrais tendance à dire que non plus. Ce n'est pas Einstein avec une théorie bouleversée pendant un siècle ou deux l'humanité. Je n'utiliserai pas ces superlatifs. Je dirais que c'était un médecin exceptionnel, un observateur hors pair, un chirurgien qui était largement en avance sur son âge. Donc je décrirais plutôt comme ça. Plus ordinaire que ces adjectifs voudraient, tout en étant exceptionnel.
You have a gentle touch, Sarah. I want you to be my baby's namesake. What is your name, Sarah?
Ignaz.
Then your mother, who is she?
She was Therese.
Therese is a beautiful.
Dr. Semmelweis, sir, not a single woman has showed symptoms of the fever in 24 hours.
Cette histoire, on peut la regarder sous différents angles. Il y a l'angle scientifique, il y a celui de la maternité, que je trouve fascinant. Il y a aussi sa propre folie. Ce n'est pas simple, vraiment pas simple. J'aime le fait que cette histoire ait autant de facettes. C'est ce qui rend le personnage bien plus complexe.
My name is Ray Lustig, and I am a composer.
Je m'appelle Ray Lustig. Je suis compositeur et musicien.
At the time that I learned of the story of Ignaz Semmelweis,
j'ai découvert l'histoire de Semmelweis quand j'étais en résidence à l'American Opera Project de New York. C'est là que j'ai eu l'idée de raconter l'histoire de Semmelweis sous forme d'opéra.
As artists, we explore possibilities.
Nous, les artistes, on explore tous les possibles. Au début, on s'est orienté vers quelque chose de très dramatique. Parce qu'elle est tellement palpitante et dramatique, cette histoire. Il est facile d'imaginer des personnages qui se disputent violemment sur scène, des femmes qui hurlent et agonisent, des intrigues politiques qui se nouent entre les personnages, enfin, tout ce genre de choses. Mais finalement, on a opté pour une autre approche. On voulait quelque chose de plus intérieur, comme si on pénétrait à l'intérieur d'une conscience, dans la tête d'Ignaz Semmelweis. Se demander quelle est sa perception du monde, sa façon de voir les choses. Je pense que c'était quelqu'un de très ambitieux et de très sérieux. Quelqu'un de très empathique aussi, mais très sérieux, ambitieux et aventureux. Je l'imagine grand et fort, avec une voix plutôt de baryton. Entre les deux, ni très aiguë, ni très grave, une voix ordinaire.
J'ai vu les photos de lui, je crois que c'était un colosse, et je crois qu'il avait une prestance, probablement. Je le vois comme une espèce de force de la nature, qui avait une puissance de travail énorme, et qui travaillait énormément. Il était vraiment médecin avant tout. Je vois un type dynamique, cordial, attentif, et en même temps... un peu trop impulsif, sans doute, quand il était un peu en contradiction avec les gens et qui ne facilitait pas la relation. Comme ça, je le vois. Donc, plutôt sympathique, mais un peu maladroit. Un peu ours des Carpates.
Dr. Semmelweis, you don't know when to stop, do you?
Your teachings, Herr Klein, are based on the dead bodies of lying in women slaughtered through ignorance. I will put an end to this slaughter, murderer!
Murderer! I denounce you before God as a murderer! You are Nero! 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 C'est vrai que moi, Semmelweis, c'est l'exemple typique du savant. C'est quelqu'un qui va utiliser la raison pour arriver à sa découverte. Et c'est quelqu'un qui va avoir aussi les faiblesses d'un être humain. Plein de contradictions dans la recherche d'une vérité qui ne va pas être comprise et qui va en avoir du ressentiment. C'est fondamentalement humain.
Semmelweis, moi je vois comme quelqu'un de très humain et très malheureux. Très malheureux parce qu'il avait peut-être une sensibilité, une hypersensibilité qui fait qu'il n'était pas prêt à être dans un monde aussi dur. Voilà, à la fois très humain et un peu fragile.
And that's why he's such a fascinating character. Because he really
C'est pour
was,
ça que Semmelweis really est un personnage aussi fascinant.
A genius and a particular kind
parce que
of genius.
C'était vraiment un génie. Et un génie d'un genre assez particulier. Le genre de génie capable de regarder ailleurs. Tout le monde regarde là, et le génie regarde ailleurs. Et où regarde-t-il ? Il regarde tout en bas. Il regarde les classes inférieures. Il regarde ce que font les prostituées, ce que font les sages-femmes. Il regarde là où personne n'a regardé.
Sa vie, c'était sale, c'est l'accouchement, c'est la vie des femmes. Il était jusqu'à la tête dans les femmes. C'était ça, toute sa vie, c'était ça. Donc voilà, à partir de ce moment-là, effectivement, j'ai enfermé dans mon cœur Semmelweis.
Well, the character of...
Je dirais que d'une certaine manière, le personnage de Semmelweis a quelque chose de féminin. Semmelweis est un homme, bien sûr, mais c'est un homme qui a consacré toute sa vie à sauver les femmes. Et si c'était à refaire, ce que je voudrais vraiment, c'est inclure davantage d'infirmières et de femmes dans mon film. Accorder une plus grande attention aux femmes.
Cette opéra a mis beaucoup de temps à prendre forme. Il m'a fallu plusieurs années avant de trouver le bon ton. Ça ne me venait pas. Et puis, j'ai eu la chance d'assister à un concert, ici, à New York, d'un ensemble slovène, le Carmina Slovenica, un chœur de femmes. Cette performance très recherchée m'a complètement époustouflé. Je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé ce que je cherchais depuis toutes ces années, la voix des femmes dans l'histoire de Semmelweis.
Docteur Semmelweis, avec René Friedman, Elisabeth Roudinesco, Johan Chapoutot, Clara Royer, Yves Buin, Ted Obenshine, Nathalie Sage-Prancher, Scarlett Beauvallet, Dana Tulojeki, David Labreur, Jim Berry, Andreas Bigfalvi, Miklos de Samaroji, Jean-Marc Cavaillon et Ray Loustic. Voix, Stanislas Delatouche, Laurent Manzoni, Romain Lemire, Maxime Legal et Andrea Schiffer. Texte, Semmelweis de Louis-Ferdinand Céline. Film, Semmelweis de Jim Berry. Opéra, Semmelweis de Ray Loustic. Traduction, Lou Elliot. Documentation, Maria Contreras, Anne-Lise Signoret et Antoine Vuilloz. Prise de son, Yann Frécy, Thibaut Nassimben, Frédéric Cairou et Valérie Lavalard. Mixage, Claude Nior. Une série documentaire de Christine Le Cerf, réalisée par Anne Pérez-Franchini. À demain, pour la deuxième partie de cette grande traversée, Semmelweis, la vocation.